France Inter, le 18-20.
La bouteille à moitié pleine, c'est que si on regarde les chiffres, disons, de ces 10 dernières années, les entreprises se conforment de plus en plus à leur obligation d'embaucher des travailleurs handicapés. On n'y est pas. Mais avec des efforts, on avance. La bouteille à moitié vide, c'est qu'un travailleur handicapé a 3 fois moins de chances d'avoir un travail que vous et moi, que le taux de chômage des personnes handicapées est 2 fois plus élevé que la moyenne. Bref, peut-être que la seule pression sur les entreprises a trouvé ses limites parce que la formation ne suit pas, parce que la discrimination existe, le handicap est souvent synonyme d'inefficacité aux yeux de certains employeurs, parce que le maintien en poste après un handicap en cours de carrière est très loin d'être bien géré. Les travailleurs handicapés butent à l'entrée des entreprises comme un fauteuil bute sur un trottoir. La Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées est là pour nous le rappeler, autant que pour y remédier. Vous avez la parole sur Inter, soyez les bienvenus dans le téléphone sonne.
Fabienne Saint-Ès, le téléphone sonne.
Et c'est vous qui commencez, David, soyez le bienvenu sur France Inter, on vous écoute.
Oui, bonjour.
Bonsoir.
Merci pour la qualité de vos émissions.
Merci.
Moi, je vous appelle, j'ai eu un accident de travail il y a 6 ans, j'ai été reconnu travailleur handicapé, puis donc licencié. Par la suite, j'ai donc décidé de reprendre des études. J'ai fait un bac en apprentissage, un major de promo, un BTS, toujours en apprentissage, un major de promo également. Et là, je suis en IUT. J'ai poursuivi avec une licence. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, je me défonce à fond dans les études. J'ai beau avoir les meilleures notes possibles, j'ai rien. J'ai 42 ans, donc je suis limité dans le sens où aujourd'hui je suis obligé de parler de mon handicap si je postule, vu que j'ai fait une reprise d'études et que bon, dans mon CV ça se voit. Mais justement, je suis confronté à des gens qui, au même âge, auront une expérience que moi je n'ai pas. J'ai beau avoir des diplômes, il manque toujours quelque chose. Puis on a toujours la suspicion justement du problème de l'handicap.
Qu'est-ce que vous faisiez, c'était quoi votre spécialité avant, David, et aujourd'hui, vous êtes devenu quoi, votre nouveau métier, c'est quoi?
Alors, en fin de compte, avant, je travaillais en mécanique, donc surtout mécanique poids lourd, ce qui fait que bon, c'était du port de charge, ce que je ne peux plus faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis dans le secteur aéronautique.
D'accord. Merci beaucoup pour ce témoignage, David. Et c'est là-dessus qu'on va effectivement commencer parce que des questions autour de l'emploi, il y en a beaucoup. Pour vous répondre ce soir au téléphone, Sonia Otmani est avec nous. Bonsoir Sonia. Oui. Vous êtes chargée de projet RH et handicap chez Edenred France. Vous êtes aussi présidente de Engagé avec un H et un A, réseau d'entreprises mobilisées pour l'emploi des personnes handicapées. Et bonsoir à vous, Éric Blanchet. Vous êtes directeur général de l'ADAPT, Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Sonia Otmani, tiens, c'est vers vous que je me tourne. Un cas typique que celui de David qui reprend ses études, qui a à nouveau un travail, mais on lui parle d'abord de son handicap avant de lui parler de ses diplômes.
Alors oui, effectivement, c'est un cas typique. Après, ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises s'emparent de plus en plus du sujet de l'emploi et l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Mais il reste encore énormément de choses à faire. La question que moi, j'aurais eu envie de lui poser, c'est quel type de métier il recherche aujourd'hui de manière plus précise. Et surtout, si c'est en adéquation avec sa situation de handicap, la manière dont il aborde aussi son handicap pendant les entretiens.
Bah David, tiens, puisque vous êtes encore là, d'abord, très exactement, donc votre métier, vous nous avez dit que vous étiez plutôt dans l'aéronautique, dans mes souvenirs, pardon.
Tout à fait, voilà. Donc moi j'avais fait mon bac au poste de monteur mécanicien, c'est-à-dire assemblage de vannes, enfin d'éléments constituant les avions. J'ai passé un BTS par la suite en continuant, je me suis dit de toute façon, quitte à reprendre les études, déjà gagner en compétences, et surtout ne plus exercer une activité physique, vu qu'en fin de compte, moi j'ai un problème de port de charge. Donc j'ai fait un BTS pour faire gestionnaire de production.
Qu'est-ce qu'on vous répond, David, quand vous êtes face à un employeur? Qu'est-ce qu'on vous répond? Est-ce que le handicap vient tout de suite dans la conversation? Est-ce que c'est vous qui l'amenez? Alors, est-ce qu'il le voit? Comment ça se passe?
Alors, même pas. Bon, déjà, moi, je suis transparent là-dessus. Parce qu'en fin de compte, sinon, ça va remonter de par le CV. Donc, prise d'études en apprentissage, comme vous le savez certainement, au-delà de 26 ans, on ne peut pas reprendre un apprentissage pour l'instant, il n'y a que la situation de handicap qui le permet. Mais non, on ne me répond même pas. Je veux dire, j'ai postulé à la suite du BTS, donc j'ai postulé partout pour avoir des formations, pour intégrer une entreprise par l'apprentissage ou la formation, une formation quelconque. Je n'ai pas eu de réponse. Mmh. Et c'est une association, alors permettez-moi de la citer, elle s'appelle Envol. Elle forme justement, elle met en contact des personnes en situation de handicap sur Paris et Toulouse avec justement des poids lourds du secteur aéronautique. Et moi, c'est comme cela que j'ai pu intégrer les entreprises dans lesquelles j'ai fait mon parcours.
Merci David pour ces précisions. Sonia Otmani, donc avant de donner la parole à Éric Blanchet, est-ce qu'il y a une manière de se présenter, d'amener son handicap pour tâcher de convaincre un employeur? Là, effectivement, il ne va même pas jusqu'à l'entretien d'embauche, David.
Alors, parler de son handicap, c'est déjà se poser la question de si on le met sur le CV ou pas, s'il y a un aménagement de poste ou pas, savoir en parler face au recruteur. La réalité aussi, c'est que c'est vrai, quand on est en situation de handicap, faut savoir aussi rassurer, mettre en avant ses compétences, mais surtout savoir rassurer son interlocuteur en face. Un recruteur, il cherche un profil, il cherche des compétences. Vous avez ces compétences, maintenant il y a un aménagement de poste derrière, faut savoir en parler, faut savoir rassurer. Alors je sais que c'est pas forcément évident, mais malheureusement aujourd'hui, même si on y travaille énormément dans nos entreprises respectives, faut continuer à savoir en parler. Pour ce qui est de votre cas, si moi j'avais un conseil à vous donner, si aujourd'hui vous avez le sentiment qu'en parlant de votre reconnaissance qualité de travailleur handicapé, vous n'arrivez pas forcément à trouver un emploi, et si vous n'avez pas besoin d'aménagement de poste spécifique, moi je tenterai le CV sans rien, pour voir si ça marche, et si le sujet est la non-réponse, finalement c'est la RQTH, ou si c'est...
La RQTH, ça veut dire quoi ?
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. D'accord. C'est une reconnaissance qui est administrative. D'accord. Qui est donnée par la maison départementale des personnes handicapées, et qui permet en fait aux personnes qui l'ont de rentrer dans les quotas, ça s'appelle comme ça, des 6%
de travailleurs handicapés dans une entreprise. Alors, c'est vrai que le problème particulier de David, c'est qu'il a 42 ans et qu'on voit bien, donc il a repris ses études, puisque comme il disait, pour être apprenti, passer un certain âge, il faut avoir une dérogation particulière, lorsque notamment on change pour question de handicap. Éric Blanchet, est-ce que vous recommanderiez la même chose que Sonia Otmani, le CV vierge, en fait? On dit pas de toute façon, puisqu'après tout, quelle importance?
Ce que j'entends de monsieur, en fin de compte, c'est que vous êtes courageux, vous avez relancé une véritable dynamique. Aujourd'hui, il faut que vous soyez à l'aise pour parler du handicap. Donc, soit vous le sentez, et à ce moment-là, il faut que vous en fassiez un argument de vente dans les différentes rencontres que vous avez vis-à-vis des entreprises. Soit vous vous dites, pour moi, c'est pas essentiel. Mon handicap n'est pas visible. C'est une difficulté comme une autre. Et à ce moment-là, il faut vraiment ne pas en tenir compte vis-à-vis des entreprises. Après, ce que vous évoquez, c'est les non-réponses. Mmh. Mais les non-réponses aujourd'hui, qu'on soit personne handicapée ou personne valide, il y a bon nombre, en fin de compte, de personnes qui posent leur candidature et qui n'ont pas de réponse. Donc c'est un moment difficile à vivre. Néanmoins, je pense que ce que vous avez entrepris, monsieur, vaut la peine que vous baissiez pas les bras, parce que je sais pas depuis combien de temps vous cherchez.
Ça fait combien de temps que vous cherchez, David?
Moi, disons, j'ai repris les études il y a 5 ans.
D'accord.
Donc là, je cherchais en sortie de BTS. Et actuellement, je vais essayer une licence. Ce n'est que 10 mois, là. Donc, il faut de suite repartir, quoi.
Alors, parler, rencontrer des gens, parler, échanger un peu. Il faut pas rester seul. Ça, c'est aussi un élément important. Il faut pas s'isoler par rapport à ça. Il y a des associations qui peuvent vous aider, qui peuvent faire du coaching aussi pour vous mettre à l'aise par rapport à cette recherche d'emploi. Il faut en profiter.
Et on va rester, merci beaucoup, merci à David, vraiment David pour votre témoignage, et bon courage effectivement avec le bac, le BTS, l'IUT, la licence à venir, vous êtes un garçon courageux. Bonsoir Bénédicte.
Oui, bonsoir.
Soyez merci. La bienvenue sur Inter, on vous écoute.
Voilà, moi c'est aussi un témoignage qui est différent de celui de David. J'ai 52 ans, j'ai été pendant 25 ans assistante sociale, je suis fonctionnaire, je travaille dans une collectivité locale. Et suite à un arrêt maladie un peu de longue durée, j'ai J'ai demandé à avoir un aménagement de poste pour reprendre à mi-temps thérapeutique. Cet aménagement de poste m'a été refusé et à ce moment-là, on m'a proposé un reclassement professionnel. Donc, moi, je me suis dit que c'était une super opportunité. Et donc, j'ai dit oui. Et quand j'ai repris donc à mi-temps thérapeutique dans ce poste de reclassement professionnel, en définitive, au fur et à mesure que le temps passait, on me donnait des tâches subalternes. Donc, le service devait déménager, on m'a demandé de faire les archives. Et ensuite, on m'a cantonné aux archives, à savoir que durant ma journée de travail, j'enlève les agrafes, je déchire les enveloppes et je déchire les doubles. Pour après, donc je me suis adressée à l'archiviste parce que j'avais fait un certain nombre de cartons, que les archives étaient pleines et j'ai demandé à l'archiviste ce qu'allaient devenir mes dossiers. Et il m'a dit, mais tes dossiers, ils partent à la benne. Voilà. Et moi, je me suis... donc, ma vraie pathologie a été découverte en 2013. Donc, j'ai été beaucoup absente de mon service, etc., etc. Enfin, à ce jour, toujours est-il que moi, j'ai perdu toute confiance en moi, surtout professionnellement. Ce que mon médecin me préconise... c'est de quitter la fonction publique et de retrouver un poste d'assistante sociale. Voilà.
On a bien compris ce que vous nous expliquiez. Pardon de vous interrompre, Bénédicte. Et on voit bien, parce que vous le décrivez bien, effectivement, le genre de travail inutile. Enfin, on a l'impression d'être dans une blague du service militaire où on vous demande de creuser un trou et puis de le renfermer. En gros, et on comprend ce que ça peut avoir de terrible psychologiquement pour vous. Comment on fait, Éric Blanchet, lorsque on part et qu'on revient ou qu'on a, parce que c'est le cas de gens qui nous appellent aussi, une maladie chronique invalidante qui arrive en cours de carrière. Comment on fait pour s'assurer qu'on se retrouve pas dans la situation de Bénédicte? Un sous-travail, un faux travail en fait.
Déjà, c'est totalement inacceptable. En plus d'une collectivité territoriale qui quelque part vous dévalorise, qui quelque part vous emmène sur le chemin en fin de compte de l'isolement, c'est complètement inacceptable aujourd'hui et ça va complètement à l'encontre de ce qu'on essaye de défendre. Aujourd'hui, le constat que l'on peut faire, c'est qu'il y a deux façons de faire. Soit l'entreprise ou le service public par rapport à justement les accidents de vie, les accidents professionnels, les maladies invalidantes, sécurise le parcours de la personne et on est dans le maintien dans l'emploi. Et il y a toujours des solutions à trouver quand on est sur de la prévention et quand on est dans de la construction. Le chemin qui est pris de la dévalorisation et qui est pris en fin de compte pour amener la personne à poser même sa démission parce que quelque part elle a perdu toutes ses formes de repères, à mon avis c'est un chemin complètement inverse et qui devrait être pour ainsi dire non pas sanctionné mais qui devrait être au vu de cette collectivité territoriale pointé dans ses valeurs et dans ses grands principes.
Sonia Othmani, ça s'appelle de la discrimination dans le travail, non? Enfin, je veux dire, c'est même devant. Mais sérieusement, on va devant les prud'hommes avec un cas comme celui-là. Bénédicte, elle devrait être en bonne position, non?
Mais clairement, et ce type d'exemple et d'histoire nous montre qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est aussi et surtout la méconnaissance, peut-être, de cette. De l'endroit où elle travaille, cette collectivité qui fait qu'il y a une mise au placard, parce que c'est réellement ça qui se passe, et que du coup, une semaine pour l'emploi des personnes handicapées a encore toute sa place aujourd'hui, quoi. En parler, on se rend compte que finalement, ça reste un vrai, vrai sujet et qu'il y a encore beaucoup de souffrance derrière pour des personnes en situation de handicap qu'on met au rebut, quoi.
21e semaine, c'est important de le dire, parce que ça veut dire que ça fait 21 ans que vous tournez autour de ces sujets. Vous vouliez intervenir, Éric Blanchet?
Absolument, 21 ans, et au début, c'était un total non-sujet. Quant à vous, madame, si vous avez de l'envie à être assistante sociale, faites-le. Je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter cette espèce de dégradation et de dévalorisation. qui est de toute façon est une impasse. Après, quelque part, si ça va trop loin, il ne faut pas hésiter à attaquer l'organisation qui vous fait vivre ça.
Voilà, Bénédicte, votre réponse. Merci beaucoup pour votre témoignage. Tiens, je voudrais qu'on aille un peu vers quelque chose d'un peu plus positif et vous allez voir que des sujets négatifs. Hélas, il y en aura d'autres. Voici François qui nous appelle de Vendée au 01 45 24 7000. François, pour vous, ça se passe bien et c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, ça se passe très bien. J'ai la chance d'avoir un employeur qui fait attention à la situation de handicap des salariés et c'est une vraie richesse dans une entreprise. Après, l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est une fondation, donc elle a peut-être aussi, cet état d'esprit à vouloir faire attention à la particularité des individus. Je dirais que la difficulté que je peux avoir, moi, mais je pense que c'est peut-être le combat de toute personne en situation de handicap, c'est face à son propre handicap et la représentation qu'il a de son handicap. Mmh. C'est-à-dire que par moment, on a envie de compenser, on a envie de normaliser notre place dans l'entreprise et qu'on est toujours dans un surdépassement de notre handicap. Et chacun s'habitue aussi à cette normalisation. Et le jour, ce qui manquait aujourd'hui aussi, là, c'est que mon handicap évolue malheureusement en dégradation. Mmh. De ma situation et mais parfois il est compliqué parfois de je me dis que parfois que peut-être les collègues que j'ai eus qui m'ont vu me dépasser encore plus peut-être que d'autres aujourd'hui peuvent voir une forme de déclinement et j'ai du mal parfois aussi à faire valoir cette évolution mais quand même mon employeur a cette qualité de me laisser ma chance de me faire évoluer dans l'entreprise sans être dans une voie de garage. Je pense que parfois je me dis que la stigmatisation elle vient aussi de la manière dont on se perçoit soi-même, mais pas uniquement que de l'employeur. Donc à chacun aussi de se mobiliser, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais c'est un vrai défi au quotidien, en permanence, comme toutes les personnes ont pu le dire jusqu'à maintenant. Quoi.
Merci beaucoup pour ce témoignage, François. Éric Blanchet, effectivement, il a raison. François, c'est aussi la manière dont on se perçoit. C'est évidemment compliqué dans l'entreprise, là visiblement ça se passe bien, mais la manière dont on se vit, dont on se voit, dont on interagit aussi avec ses collègues est très importante.
Bien sûr, parce que en fin de compte, on est le premier ambassadeur de soi-même dans ces situations-là. Et c'est la façon dont on regarde le monde, dont on regarde les collègues, dont on se positionne dans le travail qui va être très important. Néanmoins, ça n'excuse pas les sociétés, les entreprises ou les organisations qui sont maltraitantes là-dessus. C'est pas acceptable.
Merci beaucoup. Je voudrais qu'on entende Sylvie qui nous appelle au 01 45 24 7000. Sylvie, bonsoir. Soyez la bienvenue sur Inter. On vous écoute.
Oui, bonsoir. Voilà, je suis un petit peu émue parce que je vous appelle à deux titres. J'ai moi-même exercé dans la fonction publique et je me suis retrouvée en situation de handicap et j'ai été, mise en RQTH dont vous parliez. Mmh. Et on m'a proposé simplement une retraite pour invalidité. Bon, c'est rajouté à cela, et c'est ce qui est le plus grave, à mon sens, la situation de mon fils, qui a 27 ans, qui a Bac plus 8, et qui s'est retrouvé diagnostiqué avec une maladie grave, invalidante, et qui ne trouve aucun travail, qui a passé des concours de l'administration, bien que cela ne soit pas, si vous voulez, son choix premier, puisqu'il veut travailler pour des ONG, etc. Actuellement, il travaille en Afrique, je ne dirais pas où, mais il travaille pour à côté d'un ambassadeur, il lui fait ses discours, etc. Mais en CDD, très mal payé, et... ça tout se termine et il retrouve la case départ.
Et quand vous dites, Sylvie, qu'on lui a dit qu'en gros il aurait du mal à se faire embaucher, c'est qui on ? Qui le dissuade, votre fils ?
Ce sont les personnes qui l'ont, reçu lors du dernier entretien final, puisqu'il avait passé tous les stades, des examens de contrôleur des finances, des douanes, etc. Ils l'ont trouvé dans un état abominable, parce que, il faut faire des déplacements sur Paris. Mm-hmm. Bon, très fatigable, donc... et on lui a dit, mais que se passe-t-il ? Et lui, quand vous apprenez à 24 ans que vous êtes... Bon, j'ai bien entendu ce que l'auditeur précédent disait, c'est vrai. Mais il est quand même difficile, à 24 ans, d'intégrer le fait que vous soyez quelqu'un qui est porteur d'une maladie qui, en plus, peut se transmettre à sa propre... Vous voyez, ça remet tout votre avenir en cause, qu'il soit professionnel ou qu'il soit familial.
Elisabeth, on a bien compris votre témoignage, votre désarroi aussi face à la situation de votre fils. Sonia Otmani, qu'est-ce qu'on peut répondre à Elisabeth, dont on a bien le sentiment que... du témoignage de Sylvie, pardon. Et qu'est-ce qu'on peut répondre à Sylvie, dont le fils a l'air aussi désemparé qu'elle, de pas trouver de solution, en fait, malgré son bac plus 8 ?
Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le premier pas, et c'est pas le plus simple... c'est peut-être d'accepter la situation, en tout cas d'essayer de, comment dire, de l'appréhender. Alors je sais que, d'autant plus, enfin, on sent bien hein, que oui, c'est pas évident d'apprendre à 24 ans, effectivement, qu'on a une maladie génétique et qu'elle peut entraîner tout plein de choses. Oui, on se rend compte aussi qu'on doit changer de vie, etc., etc. Je ne sais pas ce que recherche comme type de poste votre fils et je ne sais pas. J'avoue, j'ai pas bien compris dans quelle filière il allait.
Il veut travailler dans les ONG.
D'accord.
Pour les ONG, si vous voulez. Il veut être diplomate. Il veut voilà.
Et en passant par la phase concours, c'est quelque chose qui est bloquant en fait. C'est au niveau des entretiens que si ça bloque.
Il s'est retourné vers ce qui ne lui plaisait pas, c'est-à-dire des concours de la fonction publique.
D'accord.
Et là, ça l'a complètement... Voilà, quoi. Ouais. On l'a bloqué, etc. Donc là, il trouve des CDD. Il va de CD en CDD. Et quand il va rentrer d'Afrique en février, il ne va avoir que le RSA pour vivre. Et c'est moi qui l'aide, financièrement parlant. Voilà.
Éric Blanchet, peut-être une remarque pour Sylvie et la situation de son fils.
Je crois que notre société a quand même à évoluer vers de la bienveillance par rapport à des situations compliquées, complexes comme ça, et que le système ne peut pas répondre que de manière automatique par rapport à ces situations-là. Le fait de voir quelqu'un qui est en train de plonger, ou en tout cas avec des difficultés, il faut que, quelque part, il y ait des recours possibles pour maintenir les gens un peu la tête hors de l'eau face à des moments qui sont extrêmement difficiles.
Je voudrais qu'on écoute Mathilde, tiens, justement, autour du même âge. Mathilde, vous êtes étudiante. Bonsoir, soyez la bienvenue sur Inter.
Bonsoir. Oui, donc j'ai 23 ans et donc je suis étudiante. J'ai fait plusieurs universités dans mon parcours étudiant. Et donc, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, la base de l'intégration professionnelle, d'après moi, c'est déjà les études et c'est un vrai parcours du combattant. Enfin, moi, je suis donc en fauteuil depuis que je suis née. Et à partir du moment où on va à l'université, ça veut dire qu'on n'a plus d'auxiliaire de vie scolaire comme on pouvait avoir au lycée ou quand on fait des études de type BTS qui demandent, qui sont encore dans des lycées. Donc, bon, c'est, premièrement, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que les lieux ne sont pas toujours accessibles. Que du coup, faut vérifier tous les matins que les salles qui nous sont allouées sont pas à l'étage et qu'elles sont accessibles du coup, et que les missions handicap qui sont chargées de nous aider sont très dévouées, mais sont assez diversement développées selon l'endroit où on se
selon l'endroit, se trouve. Selon les entreprises, selon la volonté aussi, j'imagine, des gens autour, hein, Mathilde.
Voilà, et du coup, il y a aussi un autre problème qui n'est pas des moindres, c'est qu'à partir du moment où on fait nos études dans un autre endroit que notre lieu de vie habituel, chez nos parents, imaginons, et ben, il faut faire des transferts de dossiers à la MDPH, ça prend des mois et des mois. Ça ne correspond pas du tout à la temporalité étudiante, si vous voulez. Donc, pour avoir des aides humaines, il faut attendre 6 à 8 mois, ben on a le temps de rater notre année parce que c'est pas possible de pouvoir gérer une vie personnelle seule avec pas d'aide du tout et par ailleurs des études qui sont parfois longues. Donc c'est tout un... Ce que je veux dire, c'est que c'est tout un... Une chaîne à penser, quoi. Que c'est pas seulement les études ou le travail ou C'est vraiment tout à mettre en place.
Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, on comprend bien. Je voudrais ajouter, Mathilde, à votre question, la remarque d'Emmanuel, que je salue au passage parce qu'il nous arrive d'échanger sur Twitter au sujet de toute autre chose, mais voici sa question. La formation est vraiment le nœud du problème à mon sens, et pourquoi ne pas imaginer, c'est en cela qu'elle va dans le sens de Mathilde, une auxiliaire de vie professionnelle pouvant nous aider en entreprise, rassurant par ailleurs le reste de l'entreprise. Et on parle de l'intérieur donc de l'entreprise, mais aussi peut-être dans ce que disait Mathilde, c'est-à-dire le moyen dans ses études, de passer d'un endroit à un autre sans que ce soit extrêmement compliqué. Éric Blanchet, c'est le nerf de la guerre, effectivement, une bonne formation, une bonne accessibilité, y compris dans les études, qui emmèneront après vers une entreprise tous ces jeunes travailleurs handicapés.
C'est tout simplement accompagner les parcours des gens et puis éviter les ruptures. Aujourd'hui, en France, on développe l'emploi accompagné, on va développer l'emploi accompagné, il y a déjà des expérimentations qui commencent à se mettre en place, et c'est justement pour créer ce lien. Le lien, alors, on est sur l'emploi, mais on pourrait en parler aussi sur la formation. C'est le lien, en fin de compte, qui permet à l'entreprise, à la personne concernée, d'avoir un tiers qui va permettre de travailler, de discuter, d'échanger sur les moments difficiles, sur les réussites, et qui va permettre de rassurer aussi les employeurs pour qu'ils ouvrent leurs portes à l'emploi des personnes handicapées. Parce que aujourd'hui, on parle bien de compétences, hein, on ne parle pas d'autre chose, qu'on soit valide ou handicapé. Ce qui est important, c'est que l'entreprise elle ait une réponse à ses besoins. Donc ça, c'est le fait établi au départ. Aujourd'hui, ce qu'il manque assez souvent, c'est en fin de compte ce lien qui permet de rassurer et de suivre pendant un certain temps, et ou pendant un temps certain, l'évolution de l'entreprise, l'évolution de la personne handicapée et les situations dont on a parlé pour éviter les ruptures, en fin de compte, ou les licenciements, et pour favoriser le maintien dans l'emploi. Donc l'emploi accompagné qui se met aujourd'hui en place en France est un élément extrêmement important pour l'évolution de notre société, et bien au-delà du handicap.
Sonia Othmani, ce que disait Emmanuel qui nous a écrit sur Twitter en parlant d'une auxiliaire de vie professionnelle qui peut aider en entreprise et aussi d'ailleurs rassurer à l'extérieur, ça existe parfois, j'imagine, pour certains types de handicap ou pas du tout ?
Alors ça existe pour certains types de handicap qui ont des besoins spécifiques, notamment des personnes qui seraient tétraplégiques ou voilà, avec des handicaps moteurs assez importants, ou ont du handicap psychique. Oui, ça existe. Après, je voulais aussi rebondir sur ce que disait la personne juste avant.
Mathilde,
oui, tout à fait. Où effectivement, c'est un parcours du combattant. Effectivement, faut penser non pas seulement à ses cours, mais à la manière de pouvoir y aller, les suivre, etc. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de continuer d'y aller, parce que les choses changent aujourd'hui en entreprise, et les entreprises sont à la recherche de compétences et de tout ça. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est continuer, même si c'est dur et vous êtes sur la bonne voie, et je suis convaincue que derrière ça payera.
On est tous convaincus qu'elle n'a absolument aucune intention d'abandonner en route. Mathilde, merci de nous avoir appelé. Maryse est là au 01 45 24 7000 sur France Inter. Maryse, bonsoir. Vous êtes dans les ressources humaines. Allez-y, on vous écoute.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Je travaille en entreprise adaptée. Donc, c'est un secteur qui, effectivement, recrute des personnes fragilisées, éloignées de l'emploi et en situation de handicap.
Pardonnez-moi, Maryse, j'ai pas entendu. Vous travaillez où ? Pardon, on n'a pas entendu.
Dans les entreprises adaptées.
Ah d'accord, dans les entreprises adaptées. D'accord.
Donc c'est vrai que ce soir, on relève les difficultés des personnes en situation de handicap dans leur recherche d'emploi, dans l'accompagnement, dans l'aménagement des postes. Ne pas oublier qu'au-delà de l'entreprise classique, il existe l'entreprise adaptée et des entreprises en capacité d'accompagner ces parcours professionnels. Et moi-même, dans le recrutement, je regarde très peu le CV. Je regarde avant tout une motivation, une compétence, l'envie, la curiosité d'apprendre, peut-être un nouveau métier pour des personnes en reconversion. Donc voilà, je voulais apporter un témoignage optimiste pour dire, voilà, il y a des cellules, il y a des endroits pour des personnes qui acceptent aussi. Je peux aussi en témoigner parce que je suis en situation de handicap. Et le fait de pouvoir se maintenir dans son métier, et moi je suis toujours dans mon métier ressources humaines, avec l'acceptation de dire jusqu'où on peut aller. C'est-à-dire la fatigabilité de fin de semaine, c'est aussi le dire à ses collègues, c'est le dire à son responsable, pour pouvoir justement être dans le dialogue. Et on voilà. Donc c'est l'acceptation des deux côtés. Donc l'accompagnement se fait de manière très positive et constructive.
Merci beaucoup Maryse pour ce témoignage. Éric Blanchet, c'est un peu ce qu'on disait avec un auditeur précédent, je crois qu'il s'appelait François, qui disait qu'il faut aussi accepter son handicap et s'accepter soi-même avec son handicap pour mieux avancer, y compris dans l'entreprise. Et là, comme le dit Maryse, ben, je suis fatiguée en fin de semaine. Oui, je suis fatiguée en fin de semaine, peut-être plus que les autres, et mes collègues le savent.
Bien sûr, je suis fatiguée, mais il y a aussi le temps partiel qui existe, mais il y a aussi d'autres solutions. Je pense que ce que madame vient de décrire est très intéressant, puisque aujourd'hui, il n'y a pas un dispositif, mais plusieurs dispositifs qui permettent aux personnes handicapées aussi d'avoir le choix, parce que je pense que c'est aussi ça de reconnaître la citoyenneté des personnes et qu'ils aient le choix. Alors, il y a l'emploi accompagné, il y a les entreprises adaptées, il y a les ESAT, il y a le temps partiel, il y a des tas de choses qui existent. Aujourd'hui, la problématique auxquelles on est confronté, que les personnes sont confrontées, c'est qu'elles n'ont pas toujours le choix et que dans ce qui leur est proposé, c'est enfermant. Alors par rapport au fait qu'il y ait un chômage important, un manque de formation, etc., etc. Aujourd'hui en France, le pari est fait d'avoir une société inclusive, madame. Et si on veut avoir une société inclusive, il faut accepter toutes ces variétés, toutes ces situations différentes à partir du moment où on propose de l'avenir.
Et aussi les variétés de handicap. Tiens, ce message sur franceinter.fr qui nous vient, je cherche le prénom, je le trouve pas, mais c'est pas grave, et qui dit « Je me pose une question générale qui est comment les personnes en situation de handicap mental peuvent-elles accéder à l'emploi en milieu ordinaire ? Est-ce possible ?» C'est une jeune femme qui fait un mémoire et qui est intéressée par ce genre de questions. Sonia Otmani, est-ce que c'est évidemment plus compliqué ? Comment ça se passe dans les entreprises pour les personnes en situation de handicap mental ?
Alors, dans les entreprises, pour la plupart du temps, déjà, pour ce type de handicap, ces personnes vont plus vers des ESAT, mais peuvent travailler aussi...
Qui sont les anciens CAT, en fait,
oui,
les centres d'aide par le travail.
Oui, tout à fait. Mais peuvent travailler aussi en entreprise privée, notamment par des mises à disposition de ces fameux ESAT, donc ex-CAT. Donc oui, c'est possible. J'ai le souvenir d'une entreprise de restauration rapide qui avait notamment embauché en cuisine.
Allez-y.
Qui avait embauché en cuisine justement des personnes ayant un handicap mental. Donc c'est quelque chose qui se fait.
Alors justement, ce qui est important de préciser aussi, effectivement, c'est qu'on ne parle pas que des personnes handicapées physiques. Le chiffre d'ailleurs sur les personnes handicapées en entreprise des handicapés physiques, je crois qu'il est très faible. Il correspond à peu près à 2%, 3%, c'est ça, dans l'énorme proportion, on va dire, de travailleurs handicapés.
Les 2% dont vous parlez, c'est les personnes qui ont des problèmes de mobilité.
C'est ça, les
personnes
fauteuils.
En fauteuil.
C'est ça.
Voilà, absolument. Aujourd'hui, c'est le handicap psychique qui devient un handicap de plus en plus visible et qui nécessite d'avoir un accompagnement pour les personnes, pour qu'elles puissent intégrer l'entreprise.
Et Elisabeth, vous êtes pile sur ce thème-là. Si vous me promettez d'aller vite, parce qu'il nous reste 3 minutes, on vous écoute. Soyez la bienvenue sur Inter.
D'abord, je suis admirative des personnes qui ont témoigné ce soir. Et voilà. Ensuite, effectivement, je pense que les handicaps invisibles sont pas suffisamment pris en compte. Donc vous avez eu un cancer, vous en êtes sortie. Sauf que vous avez toujours, évidemment, votre carte de travailleur handicapé. Et tout de suite, ça fait peur. Ça fait peur à l'employeur. Or, c'est l'une de vos possibilités d'avoir accès à l'emploi. Parce que l'employeur doit avoir tant de pourcents de personnes handicapées. Et vous pouvez pas lui dire, c'est beaucoup trop intime, de dire, je suis handicapée pour cette raison-là ou pour cet pour cet handicap-là. C'est... c'est invisible, on n'a pas envie d'en parler, tout simplement, et surtout on n'a pas envie qu'on nous juge. Par rapport à la personne qui vient de parler précédemment, à Nantes, il y a un restaurant où uniquement des personnes qui sont trisomiques font le service et font la cuisine, ça s'appelle le Reflex, et ça marche du tonnerre, et ce serait une expérience à faire vivre dans d'autres villes. En tous les cas, il y a un vrai, vrai problème par rapport à la reconnaissance des handicaps.
Invisible. On vous a compris.
Que vous ayez une petite déprime, on parle pas de déprime dans ces cas-là, mais que vous ayez des problèmes de gestion du temps, problèmes pour comment gérer votre appartement.
Elisabeth, on vous a compris, et je vais devoir vous interrompre, je vous rappelle que vous m'aviez promis de faire vite. Merci en tout cas de votre témoignage. On a bien compris ce que vous disiez, Éric Blanchet. Effectivement, invisible mais bien présent chez les gens. Et comme le dit Elisabeth, effectivement, et ce sera le mot de la fin, parfois effectivement compliqué de dire voilà pourquoi, voilà ce que j'ai eu comme maladie, voilà ce qui s'est passé pour moi, on n'a pas forcément envie de le faire.
L'éducation,
surtout quand on est guéri.
L'éducation, madame, l'éducation de la population pour faire tomber ces regards, ces questions, la peur. L'éducation, c'est extrêmement important, et l'éducation des petits, des plus grands et des moyens et des adultes. Aujourd'hui, c'est le champ de la réussite pour faire évoluer notre société.
Voilà, merci beaucoup Sonia Othmani. Tiens, je ne vais pas vous laisser partir sans donner le mot de la fin. Quand même, est-ce qu'on est en grande phase de progression pour le travail et des handicapés? Il y aura forcément une 22e journée, donc une 22e année pour essayer de les mettre en valeur. Est-ce que quand même, vous diriez qu'on est, nous, en France, dans une société qui avance et qui fonctionne malgré tout au-delà de ses imperfections?
Alors, elle avance. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été déployées. Maintenant, je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, notamment sur le changer de regard et l'acceptation de l'autre dans sa différence, et de pas tous être des clones, en fait, finalement, de s'accepter et d'accepter l'autre, même s'il ne vous ressemble pas.
Et j'espère que le téléphone sonne aura contribué à ça. Merci à tous pour vos appels et pour votre présence.